Pour parler de crochetage de serrure et attention en toute légalité, comme demandé par nos avocats, nous avons le plaisir et la joie d'avoir pu inviter sur notre plateau deux auditeurs réguliers de CPU, mais surtout deux personnes qui jouent des mécanismes de serrure, chacun à leur niveau pour des raisons très différentes. Nous recevons donc Vérax.
Bonjour.
Membre du Hackerspace Theta Lab, organisateur d'ateliers de lockpicking, décodeur Canal Plus Sister 3 si on le branche sur Péritel, et du sport.
Bonjour.
Serrurier récemment à la retraite, ferronnier d'art, programmateur musical de Radio Éphémère, et d'ailleurs c'est lui qui nous a fait le grand logo en métal au-dessus de la porte, et chroniqueur, comics et polar le samedi de midi à 14h dans Crossover, tu feras une bise sur la fesse de chaque membre de l'équipe de ma part.
Avec plaisir.
CPU, carré et petit utile.
Du sport, on va commencer par toi. Quel a été ton parcours professionnel ?
En ce qui concerne les serrures, on va s'arrêter là parce que sinon, ça risque de prendre vachement plus de temps.
Alors, non, moi, on ne va pas parler de ta spécialité, programmation musicale, country.
Mais même à l'intérieur du métier, si tu veux. Quoi. Mais, non, mais si tu veux, quoi, ça m'a toujours attiré parce que dans le temps, paradoxalement, les gens laissaient souvent la porte ouverte. C'est-à-dire qu'on ne fermait pas les portes à la campagne. On laissait, même encore aujourd'hui, ça existe. Hein. Il y a des gens qui ne vont jamais fermer une porte. Si, peut-être le soir, quand ils vont se coucher. C'est la journée, c'est open bar, quoi, de toute façon. Et paradoxalement, il y avait des serrures partout, sur toutes les portes des maisons, des trucs comme ça. Mais c'était des serrures vachement simples. Et donc, je me rappelle que j'étais gamin, j'avais même pas 10 ans. Et j'avais compris que c'est pas forcément la forme d'une clé. Là, je parle de clé à chiffres, quoi. Donc, le béaba, on va dire, de l'ouverture d'une serrure. T'avais pas besoin d'avoir forcément la même forme. Il suffit d'avoir quelque chose qui rentrait dedans et puis qui avait plus ou moins la même hauteur et t'arrivais quand même à ouvrir ta serrure, quoi. Donc, c'était mon premier truc. Mais après, c'est les aléas de la vie professionnelle où je me suis retrouvé dans une boîte de serrurier et puis j'ai appris un petit peu le métier sur le tas, quoi, on va dire, avec un très très bon patron qui était un vieux de la vieille et qui m'a enseigné les rudiments de base. Mais après, en professionnel, quoi, tu peux passer des stages dans des boîtes qui sont des boîtes professionnelles qui font vraiment de l'enseignement, mais qui vendent également tous les produits possibles et imaginables pour toutes les serrures du monde, hein. Mais sinon, c'est sur le tas que t'apprends. C'est-à-dire quand t'es confronté à une porte fermée avec quelqu'un derrière toi qui te dit « je veux rentrer chez moi ». Et donc, tu as d'une part, là, le premier truc, c'est que tu peux avoir le stress de dire « je vais peut-être pas y arriver ».
Tu prends une cicloche.
On va un petit peu serrer.
On parle de serrurerie.
Pour l'instant, c'est la théorie. Et tu as derrière quelqu'un qui va te rajouter un supplément de stress. Le truc principal, de toute façon, c'est de se dire on va y arriver un jour. De toute façon, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas dans 5 minutes, ce sera dans 10 minutes. De toute façon, et il faut rester toujours très zen. Parce que tu peux en parler aussi. De toute façon, il ne faut pas être speed quand tu ouvres une serrure, quand tu crochettes une serrure. Parce que sinon, tu as tout faux et puis tu ne l'ouvriras jamais de ta vie. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le truc. Hein.
Et toi, Vérax, comment tu en es venu à crocheter des serrures en amateur ?
Eh bien, la première fois, c'était, j'étais parti au Chaos Communication Congress en Allemagne.
Qui a lieu tous les ans dans la semaine entre Noël et le Nouvel An, si je me trompe.
Oui, c'est ça, entre Noël et le 1er de l'An, c'était à Hambourg cette fois-ci. Et il y avait un atelier d'initiation au crochetage de serrure, en fait, et je me suis dit, pourquoi pas, voyons, ça peut être intéressant.
T'avais déjà trop bu de maté, tu t'es dit, je vais le faire.
Ah ouais, mais j'étais chaud. Non, mais t'as le côté un peu illégaliste illégal qui m'avait intéressé. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est une zone grise. Bon, t'as toujours ça au Communication Congress. Hein, t'as les trucs qui se disent en conférence, t'as les trucs qui se disent dans les couloirs. Quoi. C'est particulier comme ambiance quand même. Mais c'est super intéressant. Et du coup, j'ai essayé ça. Je fais, putain, c'est sympa. J'ai acheté un petit kit. Je l'ai ramené. Pour le coup, je me suis entraîné. Je me suis dit, c'est bien de savoir le faire, mais je préfère quand même partager les connaissances. Du coup, j'ai monté des petits ateliers comme ça. Quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le retour a été extrêmement intéressant parce que je me suis fait arrêter par la douane avec ça dans le sac à dos.
Dans la douane entre l'Allemagne et la France ?
Ouais, dans l'aéroport, ouais.
Ah, d'accord.
Ah oui, c'est des outils métalliques.
Oui, voilà. Ouais. Et du coup, c'est des tubes en plastique avec des trucs dedans, là. Et du coup, ça passe au rayon X. Le mec, il sort, il fait « qu'est-ce que c'est ça ?» Je fais « c'est les outils de crochetage. » Et il fait « pourquoi vous avez ça ?» Alors bon, l'excuse bidon, tu vois. Et j'ai fait, bah, en fait, c'est quand j'entre chez moi, des fois, je perds mes clés. Et du coup, j'ai ça. Et voilà, il m'a râlé, il a fait, comment ça, vous rentrez, vous avez pas vos clés? Je fais, ah, mais des fois, j'entre à des amis, on fait un peu la fête, quoi. Donc on est un peu bourré, perd les clés. Du coup, j'ai ça au cas où, quoi. Il m'a râlé, il a fait, oui, ouais, ouais, ça se tient. Et hop, il m'a laissé passer. Du coup, je suis arrivé dans l'avion avec ça dans le sac à dos. Voilà.
Il faut préciser quand même à nos amis auditeurs que les douaniers suisses ou allemands dans les aéroports sont largement plus cool que les Français, même ceux de Toulouse-Blagnac.
Ah oui, oui.
Question de rapidité, est-ce que l'un de vous deux a déjà passé une nuit au poste pour tentative de crochetage?
Non.
Non.
Et est-ce que l'un de vous deux joue au Rubik's Cube?
Bah, ça m'est arrivé quand il est sorti, quoi. Comme tout oui, à l'époque où il est sorti.
77, 78.
Voilà, tout le monde avait un Rubik's Cube, pratiquement. Ah ouais. Après, j'ai jamais été super doué, quoi. Je l'avoue. Ouais. Si, j'étais super doué pour le démonter. Puis... Comme tout le monde l'a fait au départ.
Ouais, pareil. Ouais, j'ai essayé, j'ai galéré, j'ai fait bon, bah. J'ai pris de l'acétone, tu vois, j'ai fait sauter tous les plastiques et je les ai tous remis dans le bon côté. J'ai fait, ah, c'est bon, gagné.
Alors, Virax, justement, pourquoi le crochetage de serrures est un atelier de tendance dans le hackerspace? On en voit donc au Chaos Computer Club, on les voit dans les allées de la DevCon ou du Black Hat. Mmh. Et donc, c'est toi qui animé les ateliers au THSF.
Ben, il y a un côté que ça intéresse quand même pas mal les gens. Ils sont là pour du hacking, donc, enfin, dans les festivals qu'on fait. Et ils ont toujours cette idée de contourner la sécurité, d'avoir une façon, entre guillemets, élégante de contourner un problème. Et bah, du coup, le problème, c'est la serrure. Et du coup, se passer quand même du côté informatique, où c'est, entre guillemets, que virtuel, à quelque chose un hacking physique que tu vois dans le réel. Et puis, de toute façon, les serrures, tu les vois constamment au quotidien. Et c'est peut-être aussi un problème qu'ils ne se sont pas penchés dessus. Et toujours, il y a vraiment cette curiosité pour la population du hacking. Vraiment, il y a une curiosité assez forte sur ça, quoi. Et après, monsieur et madame tout le monde, quand ils voient ça, c'est plus vraiment par curiosité et tout ça. Et souvent, la question qu'ils vont poser, tiens, est-ce que mes clés sont bonnes, etc., machin, ben, je leur ai fait, ben, faites l'atelier, vous allez voir comment ça fonctionne, vous allez pouvoir vous-même répondre à la question.
Et du coup, la marge est un peu plus facile à apprendre que, par exemple, comment sécuriser un email ou ses mots de passe.
Oui, oui, c'est... faut apprendre un peu de... C'est un peu la mécanisme, enfin, toute l'élégance de la mécanique, quoi. Enfin, c'est un peu l'horlogerie, hein, donc voilà.
Bah, de toute façon, ouais, tu as raison, parce que... La serrurerie, quoi, est un dérivé du métier noble qui était l'horlogerie, quoi. En fait, quand on dit que Louis XVI était serrurier, c'est pas en partie vrai, mais lui préférait l'horlogerie, quoi. Les horlogers étaient les gens qui fabriquaient les serrures les plus sécures depuis le Moyen-Âge. C'est pour ça, quoi. Et parce qu'ils avaient un savoir-faire qui était supérieur.
Alors, pour en revenir donc aux ateliers de crochetage, donc il y a les serrures principalement, hop, comme celle-ci, à clé. Mais
oui,
il y a d'autres types de serrures.
Il y a
les serrures à bouton poussoir ou même les serrures à combinaison, ce que l'on voit, les trucs à combinaison d'antivol de vélo. Ça aussi, c'est montré en général.
Ça dépend. J'avais fait un peu avec les antivol de vélo à un moment.
Incroyablement facile, les antivol de vélo à combinaison, c'est hallucinant.
Bah, t'as certains modèles, c'est scandaleux que ça soit vendu en fait. C'est vraiment clairement. C'est en fait quand tu vas acheter un cadenas de vélo, en fait, tu prends le nom et tu tapes sur internet, sur YouTube, tu rades lockpicking ou crochetage avec ton truc et tu vas. T'as une chance sur 6 qu'il ne soit pas, quoi. Mais très franchement, en général, s'il n'y est pas, si tu rades les autres, ça sera la même chose. Hein.
C'est juste terrifiant. Ouais. Ça s'est amplifié avec YouTube, puisque là, tu as la vidéo et tout le reste. On parle de serrure. Alors là, justement, j'ai amené une serrure qui est une serrure de porte, de maison, de local.
Non, ça, c'est un passe-PTT.
C'est la Rubis. Avant de parler de passe-PTT, justement. Alors donc, c'est un barillet de serrure.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est un barillet de serrure, donc c'est relativement...
On appelle ça une batteuse.
D'accord.
En fait, quoi, c'est la cam qui est dirigée au bout qui ferme la porte, quoi, qui condamne.
Ok.
En fait, quoi. Et ça fait partie de toutes ces serrures de boîtes aux lettres, de meubles un petit peu aussi, quoi, qui existent, quoi. Mais qu'on n'appelle pas vraiment serrures, on appelle ça des batteuses plutôt dans le monde technique, quoi, si tu veux, pour les différencier des vraies serrures, en fait.
Alors, si je prends cette serrure, qui, pour l'insérer dans une porte, c'est relativement standard, donc on peut facilement remplacer un barillet, si on s'y connaît en visser, dévisser, ça, on y arrive. Le fait que ça soit standard, est-ce que déjà il y a un point de faiblesse ?
Ah, mais sur ce cylindre spécifique, c'est-à-dire la batteuse PTT, de toute façon, le point de faiblesse, quoi, c'est le support. Mmh. De toute façon, hein, je veux dire.
Oui, parce que c'est du.
C'est pour des boîtes aux lettres. Oui. Donc, ça doit être soit des boîtes aux lettres en tôle, quoi, dont l'épaisseur ne doit faire du 8 dixième, quoi, on va dire même pas un millimètre d'épais, hein, ou 6 dixième, quoi, souvent, quoi, c'est la tôle, quoi. Ou alors, la vieille boîte un petit peu en bois, ça va être du contreplaqué qui fait, on va dire, 10 millimètres, quoi, tranquille, et puis c'est tout. Donc, je veux dire, vu la serrure, parce que c'est quand même des serrures qui sont assez costauds, hein, par rapport aux serrures de boîtes aux lettres standard, hein. Je veux dire, il suffit de triturer un petit peu le truc et il y a tout qui vient, quoi. Il n'y a pas de problème, hein, de toute façon, quoi. Ou alors, généralement, c'est la cam qui va plier, quoi, parce que la cam, c'est une languette de métal qui est assez fine, quoi, en fait.
On parlait justement de la facilité de crochetage sur certains modèles de serrures ou d'antivol. Est-ce que le prix d'un barillet, d'un cadenas, est-ce que c'est vraiment le signe qu'il est plus difficile à crocheter ?
Après, faut partir du principe qu'une serrure, ça va être là pour retarder, ça ne sera pas là pour bloquer. Et souvent, le prix, il est en fonction du temps que les constructeurs estiment que va de mettre la personne accrochée. Alors, une marque s'appelle Rocco, je crois. Par exemple, les serrures qui sont à 300 dollars chez eux, ils estiment pour 7 à 10 minutes, tu vois, pour 300 euros.
Oui, c'est un standard en plus, je crois, c'est ça ?
Alors oui, c'est un standard qui s'appelle A2P, quoi. C'est-à-dire c'est une certification qui est délivrée par le groupement des assurances, enfin en France, hein, puisque bon, c'est un standard français, qui s'appelle A2P. Et là, on va avoir trois catégories, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Sachant que les serrures qui sont données pour une étoile, elles durent 5 minutes. C'est-à-dire au bout de 5 minutes, c'est ouvert. Une étoile, c'est déjà pas mal, c'est déjà des bons cylindres. Je veux dire, c'est déjà des cylindres à radio, des trucs comme ça, hein, double goupillage et tout, quoi. Donc, goupille passif, donc c'est déjà bien, quoi.
Après, putain, les termes techniques, ils vous donnent envie de chercher, on mettra tous les liens sur le site de l'émission.
L'A2P 2 étoiles, ça c'est moins utilisé, hein, mais il y en a quand même qui existent, là c'est 10 minutes, et l'A2P 3 étoiles, c'est-à-dire c'est le top niveau, il n'y a pas plus haut. Ça n'existe pas plus haut, c'est 3 étoiles le plus haut. C'est un quart d'heure. C'est-à-dire qu'un bon serrurier, alors là, c'est quand même un bon serrurier, le type, il veut mettre un quart d'heure pour une serrure sur une porte blindée, un truc du 6 points, du 8 points, cuirassé, enfin bon, enfin protection, enfin, tout le bordel, voilà, quoi. Le type passe quand même que un quart d'heure dessus. Ouais. Alors qu'en principe, bon, moi, je monte quand même des fois à une heure, quoi, pour ce genre de porte. Mais c'est vraiment du top, quoi, donc c'est...
Le mec déjà, a payé pour ça. Donc
déjà, c'est pas le sujet, quoi, parce que bon, bah là, tu peux pas crocheter, c'est impossible. Laisse tomber, là, t'es obligé de péter. Le truc de tout, de toute façon, c'est savoir où il faut péter et savoir comment tu vas remplacer quand tu pètes.
Ouais.
C'est tout, hein,
ouais, c'est ça.
Tu peux de toute façon pas ouvrir une porte et puis dire au client, bah voilà, la porte est ouverte, là, c'est répété, c'est pas grave, au revoir, démerde-toi. Là, c'est pas possible.
Ciao, bisous.
Donc voilà, c'est aussi pour ça que la différence entre le métier du professionnel. Et les gens qui vont faire ça à côté, je veux dire, que ce soit un amateur ou à des fins illégales, je veux dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de péter un truc parce qu'ils ne seront pas derrière pour réparer. Ils s'en foutent, quoi. Et nous, en tant que professionnels, si on pète un truc, on doit être capable de le remplacer, au moins temporairement, quoi, on va dire. Quoi. Voilà, quoi, c'est ça le principe, quoi, de toute façon.
Et toi, donc pour en revenir à ce que l'on disait à propos des cadenas, Verax, sur donc le prix, est-ce que ça a vraiment une importance ?
Comme il disait, il y a la certification, oui, donc ça a une certaine valeur. Après, il y a des constructeurs, pour le coup, je ne sais pas s'ils ont la même certification, parce que la certification, c'est que la France, pour le coup, celle-ci.
C'est France, ouais.
Du coup, il y a des fabricants étrangers, en fait, ils n'ont pas ça là, mais ils te donnent un niveau entre 1 et 10. Et souvent, ils vont dire, je parle pour les cadenas de moto, ils vont dire, ouais, c'est de 8 sur 10. Et c'est 8 sur 10 de rien, en fait. Hein. Donc, il y a plein de techniques.
Ouais, c'est leur norme spécifique à eux, en fait. Aux fabricants de gros cadenas ou de cadenas. Alors là, c'est plutôt une histoire de marque, c'est-à-dire c'est du abus, c'est y a des trucs comme ça, Master Lock. C'est-à-dire des boîtes qui fabriquent vraiment du cadenas, quoi, à fond les manettes. Parce qu'après, toutes les autres marques de serrures fabriquent également, ont également une gamme cadenas, quoi, qui peut être plus ou moins élaborée, quoi. Après, c'est pareil, hein, je veux dire, il y a une gradation également dans les cadenas. Les matériaux qui vont être utilisés, par exemple, pour les anses, quand c'est un cadenas à anses, ou que ce soit un cadenas à goupille, c'est-à-dire, c'est pas une anse, mais c'est un truc qui est tout droit, quoi, et qui vient se bloquer, quoi. Je veux dire, là, ça peut être des matériaux, des alliages qui sont vraiment très costauds. Où on peut même émousser, à la limite, un coupe-boulon avec ces matériaux, tellement c'est costaud, quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça.
Je vous ai envoyé une vidéo, je sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, de Low Picking Layer, qui est un mec qui est assez connu, justement, qui fait plein de vidéos sur YouTube. C'est hallucinant. Il montre, en fait, des cadenas réputés, des cadenas de haute qualité. Et il dit n'importe qui peut les crocheter en moins de 10 secondes. C'est hallucinant.
Il y a toujours une faiblesse.
Oui, mais c'est après Lock Picking Hour, ou comme Bosnia Bill aussi. C'est deux gars qui sont connus et qui font ça, qui ont leur chaîne YouTube, c'est leur métier. Ils crochettent depuis des années. Je serais même pas surpris que les deux, c'est des anciens serruriers, quoi.
Et puis c'est marrant quand même quand il dit non mais quand je l'ai signalé à Amazon, ils l'ont dépublié immédiatement la recommandation de tel cadenas. Ça veut dire déjà il a suffisamment de poids et de réputation pour faire plier un GAFA, quoi.
Oui mais ils ont une grosse réputation, mais après c'est quand ils disent 10 secondes, il faut comprendre aussi que c'est des gens qui ont beaucoup d'entraînement, qui connaissent parfaitement la mécanique qu'il y a derrière, et qui souvent ils achètent les serrures, ils vont les crocheter. Et t'as une chance sur deux qui a pris les coupes en deux pour voir techniquement aussi s'ils connaissent pas. S'ils connaissent pas la serrure, ils vont la couper en deux pour aller ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, ils vont la donner, tu vois. Mais c'est. Après, ils ont une connaissance et ils ont un ressenti au doigt, enfin, comme les doigts de fée, quoi. Ils ont vraiment un ressenti de. Ils ont une habitude, quoi. Donc après, il y a tout qui fonctionne.
Ça me fait marrer là, parce que ça me fait penser à Freddy aux doigts de fée, ça me fait penser au Gaston Lagaffe, puisque donc Duspor et moi on a été chroniqueurs BD. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Duspor et Vérax pour parler de lockpicking ou crochetage de serrure pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais et qui n'ont pas les clés des langues étrangères. Vérax, lorsque le THSF avait lieu, et j'espère qu'il aura encore lieu, tu proposes des kits de crochetage. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans?
Alors du coup, c'est des petits kits qui sont en forme de carte de crédit avec au nom de James Bond. Donc ça fait toujours un côté un peu sympa comme goodies, hein, comme jeu, gadget. Et du coup, dedans, tu as un entraîneur et tu as quatre crochets. Du coup.
Donc, j'en ai vu six. Ouais, donc, ah oui, donc...
Non, tu as quatre...
D'accord, donc les noms sont très spécifiques pour le coup, ok.
Ouais. Bah, du coup, tu as quoi?
Alors quand tu as un truc qui a des dents comme ça, quoi, ou qui a des formes un petit peu zarbi, au bout, des fois tu as un truc rond, c'est ce qu'on appelle des racleurs, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est fait pour un petit peu titiller les goupilles, quoi, de telle manière à ce qu'elles fonctionnent un petit peu mieux, quoi. Hein, au cas où elles sont un peu usées. Après, les trucs avec
donc,
juste un petit
crochet. Le guili-guili avant la relation sexuelle, comme
voilà,
je disais.
Voilà, c'est ça, tu as tout compris. Ensuite, t'as les deux.
Il va foutre une baffe parce que son gosse écoute.
t'as les deux outils avec juste un petit crochet au bout. On appelle ça les palpeurs. C'est-à-dire, c'est l'outil qui, avec le petit palpeur au bout, le petit crochet, il va pousser la goupille pour la mettre en place, pour pouvoir mettre en position ouverte. Alors, t'en as plusieurs, quoi. Et après, tu as... alors là, il n'y en a qu'un. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'entraîneur, quoi. Le débloqueur, quoi. Généralement, nous, on dit entraîneur, on s'en fout, quoi, de toute façon, quoi. Et en fait, c'est ce qui permet de mettre le barillet en tension, quoi, de telle manière à bloquer les goupilles, pour les mettre... À les aligner avant... de libérer, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça la technique.
Oui,
quoi.
C'est ça. Ouais. Tu mets en tension le barillet avec l'entraîneur pour après tout aligner sur la ligne de césure.
Yep. Mmh.
Le temps d'apprentissage pour ce kit, pour en savoir un minimum?
Moi, les ateliers, du coup, en général, c'est un quart d'heure, 20 minutes de théorie, où là, vraiment, tu vas reprendre la mécanique d'une serrure à clé normale. Et après, c'est de la...
Avec une serrure transparente pour voir comment ça marche, ouais.
Et après, c'est trois quarts d'heure de pratique, parce que quand tu as compris la mécanique et la théorie, ben, tu as compris, c'est pas non plus hyper, hyper compliqué. Et après, c'est plus vraiment du ressenti. Donc, en fait, après les exercices, il y a deux exercices où vraiment, c'est que du ressenti, sentir la tension d'un ressort, arriver à compter combien tu as de goupilles. Parce que c'est vraiment que du ressenti. Donc.
Alors pourquoi quand tu es arrivé devant le douanier, tu as dit que c'était un kit de crochetage, alors que ça ressemble plus finalement à un kit de manucure?
C'est pas faux.
C'est pas faux. Je dirais que c'est pas faux.
Elle était nulle.
Mais vu la présentation, vu le package, dire, il n'y a pas de problème. Quoi.
Ouais. C'est pour les pédoncules, ça marche.
Est-ce légal ou pas d'en avoir un?
Oui.
Bien sûr.
Ouais. Oui, en fait, légalement, tu as le droit d'en acheter. Tu as le droit d'avoir ça chez toi. En fait, tu as le droit de l'avoir dans ton domicile. Tu n'as pas le droit d'avoir sur le lieu public. Voilà. Après, la voiture, c'est une zone grise, par exemple. Tu peux l'avoir sur toi dans la voiture, mais voilà. Par exemple, tu as le droit de crocher la serrure de quelqu'un si tu en as donné l'autorisation. Voilà.
Si c'est ta voiture,
oui,
ton vélo, oui, forcément.
Après, si tu veux faire de l'argent sur ton temps libre, il faut pas te faire choper, quoi.
Ouais.
Ça, c'est un autre problème, quoi.
Oui, voilà.
Ça n'a rien à voir avec le fait de faire l'acte, quoi. Je veux dire, oui. D'ouvrir, quoi.
Après, pour en avoir discuté avec un policier, justement, il m'avait dit que c'est facteur aggravant, quoi, évidemment. Même si tu te fais arrêter pour une connerie dans la rue.
Tu veux dire que c'est arme par destination ?
Non, c'est pas.
Bon, c'est une arme.
Non, mais tu te fais arrêter pour une bagarre dans la rue.
Oui.
Et t'as ça en plus, c'est facteur aggravant.
Ouais.
Au niveau pénal, c'est. Même si tu te fais arrêter pour une bagarre, ça, c'est.
Arme par destination, donc.
C'est. Voilà.
Ça, on pourrait se servir. Comment les trouve-t-on ? On les trouve facilement en magasin, chez Supermatou.
Alors, tu vas pas trouver ça chez Brico Dépôt, mais tu peux trouver ça sur Amazon, sur Alibaba Express. En plus, le kit, moi, je le touche à prix coûtant. Je l'achetais à 2,60 € et des boîtes, quoi. Et je le vendais 3 €, tu vois. Donc, histoire de faire un compte rond, quoi.
Du sport, t'en penses quoi, toi, de ce type de kit ?
Oh, bah, c'est un bon début, quoi. Non, mais justement, quoi, quand j'ai fait un peu le détail, j'ai expliqué un petit peu les différents outils. Et en fait, c'est un bon début pour commencer. Après, on va trouver des kits qui sont vachement plus complets, avec plus de d'outils de picking, plus d'outils de raclage, plus de balanciers, quoi, pour bloquer les barrières. Ça peut monter à 7, ça peut monter à 11, ça peut monter à 15. On a des pochettes en... Alors là, c'est bon, c'est vraiment les trucs qu'on peut acheter chez les professionnels, qu'on va pas trouver sur le net, je veux dire, sur Amazon, mais vraiment des vrais professionnels qui font que ça pour des pros. Où il faut commander avec son numéro de Sirette, parce que sinon, ils te disent au revoir monsieur.
Ouais.
Et là, effectivement, bon, tu as des bons produits, mais bon, tu les payes aussi. Hein. Là, c'est pareil, c'est pas la même chose. Hein. Disons qu'une pochette de 15 outils, quoi, c'est un truc qui va te monter à 150 balles ou à 120-150 balles, on va dire. Par contre, c'est de la très bonne qualité. Là, c'est
très
bonne qualité.
T'as raison de dire la qualité,
quoi.
Parce que ça fait, même si ça fait son millimètre d'épaisseur...
Ah, mais c'est obligé que ce soit très fin, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, sinon
peur,
ça rentre pas, quoi. Si c'est trop épais, il faut que ce soit très très fin. Par contre, il faut que ce soit très rigide, donc c'est de l'acier dur. C'est de l'acier dur trempé en général, mais après, ça dépend entièrement de la qualité de l'acier dur et de la trempe, quoi. C'est ça aussi. Hein.
Ouais. Après, pour le coup, si tu veux commander, tu peux commander à l'extérieur de la France, où là, tu vas pas devoir donner ton numéro de tiré et compagnie.
Ouais.
Tu peux trouver sur Alibaba Express des kits vraiment pas chers. Mais évidemment, l'acier, il est pourri, c'est super épais.
C'est du chinoisium.
C'est du chinoisium, quoi. Mmh. Il faut repasser avec le papier de verre dessus.
Celle-ci était gratuite, excusez-moi pour la blague raciste. C'est aussi un petit peu moins cher. Je pense que les kits pro, quand même, ça doit douiller un petit peu, quoi.
Parce que, en fait, les kits pro, c'est fait pour des gens qui vont s'en servir relativement souvent,
oui.
On va dire. Donc, ça tienne le coup.
T'as des marques comme, par exemple, française, je crois, t'as le Corbeau.
Ouais. Qui
fait du crochet. Le crochet, il est plus cher que le kit, quoi. Enfin, voilà, clairement.
Ou Madelin aussi, quoi.
Ouais, Sparrow, j'ai pensé aussi.
Ouais.
Et là, évidemment, c'est pour des gens qui font du crochetage pour le sport ou pour des professionnels. Et là, c'est des kits qui sont bien plus chers. Ouais.
Et comment font les professionnels pour ouvrir du sport ? J'ai entendu parler de pistolet à serrure.
Bah oui, c'est un pistolet. Enfin, disons que. En fait, c'est pas compliqué. C'est. Alors, je vais pas citer la marque, mais c'est une marque d'outillage portatif très connue. Très connue, d'accord ? Et
Lidl.
En fait, il existe ce qu'on appelle des tournevis électriques. Alors, c'est un truc long comme ça, quoi, avec au bout, t'as un embout cruciforme, plat, et puis bon, tu peux visser, dévisser, tout ça. Et c'est le même outil dont le mécanisme a été modifié à l'intérieur du moteur avec une espèce de petite cam ovoïde qui fait qu'au lieu de tourner, ça vibre. Et donc, il te suffit, alors donc, ils ont adapté un support dessus, et puis bon, t'as une petite lame comme ça qui est droite, donc il n'y a pas le crochet au bout. Et en fait, ça va te faire vibrer ta lame. Et ça va faire vibrer, ça fait flipper les goupilles de telle manière ce qu'en même temps, bon, ben toi, tu avec ton entraîneur, bien sûr, tu tends un petit peu le barillet pour que les goupilles. Et au bout d'un moment, t'as les goupilles qui se mettent en place, quoi, aléatoirement, quoi. Voilà. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, parce que des fois, t'as des goupilles, t'as des cylindres, t'as que 4 goupilles, quoi. Mais bon, généralement, c'est 5, parce que nous, ici en Europe, on est. Des bons serruriers, c'est pas comme les États-Unis où ils ont que des merdes.
Je confirme.
Ne me déclenche pas une guerre nucléaire.
Ah non, mais c'est confirmé. Non, mais c'est confirmé. Voilà. Donc, en fait, Le fait est que, justement, quoi, on arrive à ce résultat vachement plus rapidement, quoi, si tu veux, quoi. Parce qu'en fait, là, selon, alors c'est toujours la même chose, c'est selon la marque de la serrure. Tu le disais avant, quoi, selon la résistance des ressorts de goupillage, parce que selon les marques, les ressorts sont plus ou moins costauds. Hein, y a des marques qui sont très connues pour avoir des ressorts de merde. Tésar, voilà, je l'ai cité. Comme ça, ils seront contents.
On balance des noms.
On balance. Et en fait, bon, bah, justement, quoi, ça dépend entièrement du feeling. Mais généralement, quoi, si t'as le truc, une bonne serrure, un verrou, un truc, un cylindre, il n'y a pas de problème. Tu fais brrrt, et puis hop, c'est bon, quoi, c'est parti, tu tournes. Après, tu bloques ton retour de goupille, quoi, demi.
Ouais,
et,
puis,
et pour passer du deux tours, du deuxième au premier, si tu veux, pour ne pas revenir à zéro et avoir à reflipper, il y a un truc qu'on appelle le lanceur. C'est un truc avec un ressort en torsion que tu mets juste à 11h, quoi, par rapport
avant,
à
le
truc. Et puis, shplam, tu lâches ton truc et puis, plaf, ça le fait passer, quoi, de l'autre côté, de telle manière à faire le deuxième tour, quoi. Voilà, avec ces deux outils, quoi, généralement, t'es cool, tu arrives, quoi.
Mais à la place du ressort, tu vois, moi, cette technique un peu plus do it yourself, c'est, tu vois, tu l'entraîneur, tu mets un élastique, et tu tends, et après, tu lâches au bon moment, quoi.
Ah ouais, et en plus...
C'est plus récupérer l'élastique dedans, ouais. Après.
C'est plus schlag, mais ça marche, là, ça marche.
Ouais, non, mais en plus, je veux dire, quoi, mon patron, quand il m'a appris ce genre de truc-là, qu'il m'a montré, et puis bon, bah, tout ça, il m'a dit, tu sais, quoi, dans le temps, on n'avait pas le lanceur, ça n'existait pas. Dans le temps, on prenait un petit tournevis et le marteau, et puis on faisait pof, et puis soit ça passait, soit ça passait pas. Et donc t'étais reparti pour autre.
Ah ouais, d'accord. Ben ouais. Je suppose qu'au bout d'un moment, ça les use un peu. On m'a parlé d'un truc pour ouvrir une serrure avec une radiographie.
Ah oui.
Ah ouais, mais ça c'est ça a rien à voir avec le lockpicking en fait. C'est parce que la porte est claquée.
Et ça veut dire qu'il y a les clés encore dedans, qu'elle n'est pas tournée.
Pas forcément.
Que la serrure n'est pas tournée, que tu as bêtement claqué ta porte, tu es enfermé dehors.
Soit tu as les clés dedans, soit une personne s'est fait voler son sac à main ou son portefeuille ou ses trucs dans la bagnole, donc il a plus ses clés. Point. Donc il ne peut même pas rentrer chez lui.
Et par exemple, les sorties de secours dans les bâtiments publics, tout simplement, les portes poussantes. Elles ne sont pas fermées à clé. Hein.
Eh ben, c'est interdit.
C'est interdit.
Il
y a même, eu des morts, je ne sais plus dans quel incendie, d'un bar souterrain comme ça.
Oui, non, récemment. Non, mais tu ne peux pas fermer une antipanique, tu ne peux pas la fermer à clé. C'est-à-dire que tu as le truc à clé à l'extérieur, c'est juste pour pouvoir accéder du côté extérieur pour rentrer. Mais du côté intérieur, tu ne peux pas fermer à clé une antipanique. Ça n'existe pas.
Verax, tu as parlé tout à l'heure de serrure de crochetage de serrure pour le sport.
Oui.
Ça veut dire donc qu'il y a une ligue officielle, un championnat de lockpicking, et je m'étonne que du sport, qui, comme son pseudo l'indique, fait une émission sportive, n'en ait pas parlé pendant ses 30 ans à l'antenne.
Ah ben non, mais écoute, la discipline est relativement récente, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Oui, bah, y a quelques compétitions qui sont, par exemple, durant le LEFCON. Ça se fait dans le nord, dans les pays du nordique. Il y a vraiment une grosse communauté de lockpicking là-bas.
Ça doit être l'héritage viking.
Oui, sûrement. Ouais. Très connu pour
plus de temps chez eux, de toute façon.
Ouais, voilà. Au moins, le soleil là-bas. Et t'as les épreuves sympas, donc évidemment t'as le crochetage de serrure le plus rapidement possible. Après t'as des épreuves où t'as chacun a deux serrures et en fait quand t'en as fait une, tu tournes la table parce que c'est les tables tournantes et du coup la personne se retrouve avec
la serrure du voisin.
Donc évidemment t'as tout ce truc qui roule, d'attendre qu'en fait là tu vois qu'il est bientôt plus fini et hop tu fais tourner alors que toi t'as fini depuis longtemps. Non, c'est sympa, quoi.
Ah ouais,
ouais. Et t'as les fabricants qui viennent aussi aux compétitions pour le coup, hein, pour regarder un peu comment ça se passe, les nouvelles techniques. Etc. quoi. Donc c'est assez sympa.
Lot numéro 1, une vachette.
Ouais.
Mais en métal.
Ouais.
Je suppose qu'il y a des vidéos et des liens, tu me les enverras alors.
Ouais.
Faudra les faire partager à nos amis auditeurs. Est-ce que c'est un sport qui demande un certificat médical et un avis juridique?
Du tout. Ah, du tout. Non. Faut pas trembler.
Je suis mal barré.
Ouais, c'est ça.
Du sport, pour en revenir justement aux faiblesses, il y a des clés réversible.
Oui.
Est-ce qu'il y a donc une symétrie, donc une faiblesse mathématique dans ces clés?
Absolument pas. Non. Parce que, en fait, ce qui se passe, alors attends, je dois en avoir sur moi. Voilà. Donc, Voilà, la clé réversible, si tu veux, c'est un truc de facilité d'utilisation et en même temps des sécurités en plus. Pourquoi des sécurités en plus ? Parce qu'au départ, tu as toujours, alors si tu regardes sur celle-là, bon, les autres, généralement, c'est toujours pareil, tu vas également avoir tes 5 crans,
d'accord.
Donc 5 goupilles, qui sont des 5 goupilles qui sont comme un 5 goupilles normal, sauf que là, les goupilles sont un peu désaxées par rapport à l'âme du cylindre, du profil européen. C'est pas dans l'axe de la lame, donc c'est un peu plus difficile à flipper. Et tu as une deuxième rangée de goupilles qui sont ce qu'on appelle les goupilles passives. C'est-à-dire que leur combinaison va être calculée en série. C'est-à-dire que tu vas avoir, ils vont fabriquer, 2000 cylindres qui vont avoir la même combinaison de goupilles passives. C'est exactement la même, quoi. C'est-à-dire, alors que l'autre combinaison, c'est-à-dire les goupilles actives, justement, là, tu vas avoir la combinaison avec le numéro qui est marqué de telle manière. Voilà quoi.
Donc passif, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas d'utilité. Donc elles
parce qu'elles bloquent quand même le barillet.
D'accord.
Donc il faut que tu aies en même temps le décrochetage des goupilles actives et des goupilles passives. Les goupilles passives, en principe, c'est le truc le plus facile parce que justement, quoi, tu n'as très peu de combinaisons. C'est vraiment très léger. Mais c'est une sécurité supplémentaire, quoi, en fait. C'est tout simple, quoi. Donc c'est vrai, mais après de toute façon c'est pas tellement la forme de la clé, c'est pas tellement le goupillage qui importe, c'est la solidité du cylindre d'une part et c'est peut-être la protection que tu mets sur le cylindre avant.
Autour.
Hein, parce que le crochetage c'est bien joli, mais enfin généralement les gens qui rentrent ils utilisent des méthodes un petit peu plus radicales on va dire et plus destructrices. Donc pour éviter ce genre de truc, pour retarder comme tu le disais avant, c'est exactement ça, une serrure n'arrêtera jamais quelqu'un, il y a toujours un moment où tu trouves le truc et tu peux arriver à ouvrir. De toute façon ça peut prendre des jours des fois, c'est vrai, mais tu arrives de toute façon, quoi, c'est ça quoi. Et là le truc c'est que avec ces cylindres tu es en sécurité, d'accord, il y a des fois des cylindres avec âme renforcée, tu as cette marque qui fait des cylindres où si tu essaies d'arracher le cylindre tu vas péter la zone de la première goupille et ton cylindre sera en retrait par rapport à la porte, donc tu ne pourras pas continuer à l'arracher mais tu pourras continuer à serrer de ta clé avec le goupillage restant. Tu vois, il y a plein de systèmes comme ça qui évitent justement quoi, les attaques costauds, quoi, ça, les arrachages de cylindres.
L'attaque en force brute ne marche pas tout le temps.
Voilà, voilà, c'est ça. Quoi. Et ça, c'est les protections que tu peux avoir quoi, sur ces cylindres, alors quelles que soient les marques. Là, on a la chance, nous, en France et en Europe, d'avoir de très, très, très bons fabricants de serrures. Qui ont du background comme c'est pas permis. Quoi. Une boîte comme Bricard, c'est une boîte qui a commencé à travailler au 19e siècle. Donc, ils ont quand même une certaine expérience.
Ils
ne fabriquaient pas des serrures au départ, mais ils fabriquaient des crémones, plein de trucs comme ça, d'art. Quoi. Enfin c'était pas pour le pauvre Pékin moyen, c'était plutôt pour l'aristocratie de toute façon à l'époque. Et c'est quand même eux qui ont inventé pas mal de nouveaux types de serrures. La super sûreté, c'est celle qui a les trois trucs là comme ça quoi, qui a été inventée en 1925 et qui est toujours en activité, qui fonctionne toujours actuellement quoi.
Quand
ça marche on garde, c'est ça quoi. Voilà quoi. Donc si tu veux, il y a plein de marques quoi font des super produits, pas de problème. Et ça va être adaptable, ça répond un petit peu également, ça précise un petit peu quoi ce que tu demandais avant par rapport à la gradation dans le prix. Ça correspond à toutes les bourses quoi en fait quoi. Si t'as envie de foutre une super serrure, tu fous une super serrure, il y a pas de problème et tout. Mais si tu la protèges pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine de balancer, de foutre 300 balles quoi dans un cylindre si tu l'arraches quand même en 30 secondes, tu vois. C'est débile, quoi. C'est un peu ridicule.
Si t'as une porte en boîte de caisse.
Il faut mettre les choses en gradation par rapport à la sécurité que t'as envie d'avoir, quoi. Après, si tu te dis, je fous deux serrures, deux verrous, trois verrous, basta, parce que l'assureur me dit qu'il faut deux points ou trois points de fermeture. Voilà. C'est pas précisé. On te demande pas d'ADP, de machin comme ça. Et pour revenir aux ADP, si tu veux, le truc, c'est quand tu fais des déclarations de d'assurance, enfin, pour les assurances, des trucs comme ça, des contrats d'assurance contre le vol et tout ça, c'est quand tu déclares ce qu'il y a dedans, et c'est en fonction de ça qu'ils vont te dire, vous mettez telle serrure. Si chez moi j'ai un Picasso et trois Renoir, il n'y a pas de problème, je suis obligé de mettre au moins une 3 points.
Je croyais que tu parlais de marque de serrure.
Une 3 points, ou une 5 points A2P 3 étoiles, de toute façon. de toute façon. Et avec quelques petits bouillis en plus qui concernent le reste des ouvertures de la maison. Parce que comme tu disais, un préambule, c'est pareil. On parle souvent de la serrure en disant, ouais, c'est l'endroit par lequel on peut rentrer. Mais par contre, si on délaisse les autres endroits, les fenêtres, quoi, généralement, c'est vachement plus facile à ouvrir. Quoi. Ah ouais. C'est ça aussi. Quoi. Et il faut aussi se dire qu'une serrure, c'est quand même très important d'avoir une bonne serrure qui ferme bien. Parce que le problème, c'est qu'il faut que même quand tu es à l'intérieur, tu te fasses un petit peu chier pour l'ouvrir si tu n'as pas la clé. Un petit peu moins parce que tu es à l'intérieur par rapport à l'extérieur, mais un petit peu moins. Pourquoi ? Tout simplement parce que si les cambrioleurs passent par la fenêtre, vont faire une radia sur ton écran large, sur ton PC, sur tes portables, sur je sais pas quoi, donc on va partir avec les bras un peu chargés. Or, sortir par une fenêtre avec les bras chargés, c'est un peu plus difficile que sortir par la porte. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir également une serrure qui soit un petit peu costaud côté intérieur, quoi, où tu fais un peu chier, bon, tu y arrives toujours, quoi, mais quand même, c'est pas, je tourne un bouton, j'ouvre, je sors, au revoir. Voilà, quoi, c'est aussi ça, quoi, le truc.
Les racks, tu voulais dire
Par exemple, pour une moto, tu es obligé d'avoir un cadenas, un truc SRA, de la marque, enfin de norme SRA. Mais ça va être des marques comme Kryptonite ou des trucs comme ça. Mais voilà, pareil, comme il dit, c'est selon la valeur, tu es obligé d'avoir cette norme-là. Même si c'est du gros bousin, enfin, hein, c'est du caca, les Kryptonites, bon, c'est pas. Bon, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre, t'as les outils, ça s'ouvre très très rapidement, quoi. Mais t'es obligé d'avoir ça, quoi. Et effectivement, pour les fenêtres, t'as beau avoir des barreaux, t'as un cric de voiture, les barreaux, tu les écartes, tu casses la vitre, ça passe aussi bien que par la porte, hein. Enfin, tu as moins de faire chier que par la porte, hein. Voilà, donc. Et après, les cambrioleurs ont plein de techniques comme ça, hein. Donc. Voilà, j'avais vu discuter avec quelqu'un qui s'était fait cambrioler, ils sont passés par là, quoi. Ils ont écarté les barreaux et après ce qu'ils ont pris, une poignée de cigarettes qu'ils avaient pris dans les cendriers publics et ils les avaient jetées par terre autour de la fenêtre pour quand les policiers sont arrivés qu'ils voulaient faire des relevés d'empreintes ou d'ADN, ah ouais. D'ADN et compagnie. Mais en fait, ils avaient genre 20 ADN différentes, quoi. Mais de 20 personnes, ils savent pas qui, quoi. C'était 20 personnes. Ils avaient pris un cendrier public et ils l'avaient versé. Comme ça.
Oui, c'est pas quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand même, faut reconnaître. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Dusport et Vérax pour parler de lockpicking, de crochetage de serrure. Peut-être l'un de vous deux veut intervenir sur la chronique qu'on vient de faire sur la TSC.
Je vais te parler du stylo bic, mais effectivement, c'est un problème qui est un gros problème, hein, parce que justement, les photos qui sont sorties, ça a permis de les diffuser. Et c'est aussi quelque chose qui arrive pour les gens qui voyagent dans les pays étrangers hors États-Unis, où ils sont obligés d'avoir des cadenas, etc. Mais par exemple, les gens qui s'occupent des bagages, il y a beaucoup de vols, parce que, etc. Ils sont là, mais comment ils ont ouvert, il y avait un cadenas, ben, le stylo bic, ça suffit, quoi. Et tout le monde a un stylo bic quand même, hein, tu peux pas.
Faut reconnaître, enfin, sauf les générations digitales, ça vous apprendra à réapprendre à écrire manuscritement. Dusport, je viens de parler des cadenas Travel Sentry. On a un peu l'équivalent en France pour une autre raison, ça s'appelle le pass PTT.
Yes.
Alors, techniquement, qu'est-ce qu'un pass PTT ?
Eh ben, c'est un cylindre avec un double goupillage, voilà. C'est-à-dire,
c'est pas faux.
Tu as toujours dans un cylindre normal, tu as deux goupilles, t'as la pompe et la contre-pompe, et en dessous t'as le ressort. Donc il faut que t'alignes, si tu veux, quoi, ces deux trucs pour que ça arrive au point de pivotement. Voilà, ça c'est le truc basique. Après, sur les goupilles que tu titilles justement avec ton palpeur pour essayer de les mettre en place, tu peux rajouter d'autres goupilles, c'est-à-dire tu vas avoir une goupille en deux parties, en fait, quoi. Mais alors avec une partie qui est très fine, quoi, généralement, quoi. Qui peut faire du 1 dixième de millimètre jusqu'à 1,5 dixième de millimètre, de telle manière à pouvoir avoir une gradation dans la combinaison. Parce que c'est toujours des combinaisons qui font de 1 à 9, quoi, généralement, ou de 0 à 9, quoi. C'est-à-dire que tu as 10 possibilités de combinaison, quoi, sur une hauteur bien définie, quoi. C'est un petit peu ça le principe. Et donc, les passes PTT, en fait, c'est le principe du double goupillage où tu as une clé personnelle qui va ouvrir le goupillage normal, tel qu'il est conçu, quoi, c'est-à-dire avec les longueurs précises de goupille, et le pass PTT qui, lui, eh ben, est un pass qui va actionner, eh bien, justement, quoi, les petites goupilles qui sont les entretoises, qu'on appelle ça, les entretoises d'ailleurs, qu'on va mettre, quoi, justement, pour pouvoir actionner ce truc-là. Alors, à partir du moment où tu as un double goupillage, tu peux te dire que c'est plus facile à ouvrir qu'un simple goupillage. De toute façon, parce que tu as deux possibilités au lieu d'une.
Tu viens de me donner une question. Il y a combien de clés différentes passe PTT ? Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, si je me trompe.
Alors, les plus fréquentes, c'est quatre. Voilà, quoi. Hein, il y en a quatre, en fait. Mais en fait, ce sont les quatre qu'utilisent les facteurs. Et il y en a deux ou trois qui sont disponibles partout. Parce que, bon, bah, tous les distributeurs qui te remplissent ta boîte aux lettres de prospectus, qui l'ont. Généralement, ce sont des facteurs, quoi, la plupart, quoi, qui font du pognon en plus, quoi. Et maintenant, c'est même géré par la Poste. C'est une filiale de la Poste.
PubliPoste, si je me trompe.
Mais tu as également d'autres passes PTT, c'est la même tête qu'un passe PTT, mais qui sont faits avec des clés, non que les facteurs, parce que ce sont les clés qui permettent d'ouvrir les grandes boîtes pour recueillir le courrier. Alors là, tu peux toujours essayer avec un passe PTT qui
les boîtes
sert
marron.
À ouvrir un immeuble, tu n'ouvriras pas le.
Les boîtes marron au coin de rue, quoi.
Jaune,
oui,
les boîtes
aussi,
jaunes.
Oui.
Les boîtes jaunes. Ouais.
Non,
boîtes
les marrons à Londres.
Voilà.
Est-ce légal dans...
Il paraît qu'il y en a une vingtaine. Moi, j'ai entendu dire qu'il y en avait une vingtaine. Alors, je me dis oui, de toute façon, techniquement, c'est tout à fait possible. Au niveau du on peut,
une vingtaine de clés, tu veux dire.
Une vingtaine de clés différentes, c'est-à-dire un double, 20 doubles goupillages différents. Voilà, quoi, c'est un petit peu ça le truc. Mais il pourrait en faire une centaine, il n'y a pas de problème. Techniquement, tu peux, hein, il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire. Il suffit de qu'il y ait une seule goupille qui change de hauteur sur un dixième de millimètre, et le tour est joué. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait.
Est-ce légal d'en avoir une où je peux retourner le bras du prochain démarcheur en copropriété timesharing sur la Costa del Brava que je chope dans l'escalier et qui tente d'arnaquer la mémé du troisième ?
Ah bah non, tu peux en avoir, il n'y a pas de problème. Quoi, je veux dire, non, c'est, je crois que c'est la clé qui est la plus copiée chez les copieurs, chez les mecs qui font des doubles de clés.
J'ai toujours cru que c'était les clés des PC pour déverrouiller les clés.
Ah ben non, mais de toute façon tu vois la taille des différents... Les différents passes, tu reconnais directement la taille. Déjà, bon, bah, tu as l'ébauche, tu sais ce que c'est, quoi. Bon, c'est une certaine ébauche, quoi, donc certains profils, et après tu vois la taille, tu dis, ouais, ça c'est du passe PTT. Et je sais que moi, quand je travaillais dans le magasin où on était, de temps en temps, il y avait certaines personnes qui voulaient faire des clés, et puis on leur disait, non, ça on fait pas.
Parce que, bon, on t'a vu venir.
Faut quand même pas bousser, quoi, je veux dire, quoi.
On t'a vu venir, ouais. Donc, est-ce que, de par son mécanisme, une serrure avec une clé PTT induit plus de deux combinaisons d'ouverture pour une serrure ?
Mais non, il y a deux. Il y a deux.
On ne peut pas faire un mélange des deux à la fois pour arriver à ouvrir ?
Et non. Et non, 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 c'est calculé pour deux lignes. Donc, après, tu pourrais faire un goupillage qui autoriserait le déblocage par trois clés ou quatre clés. Tu vois, c'est
d'accord.
possible.
Hein. Ah oui, mais là, pour le coup, c'est une autre conception.
Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste l'histoire de préparer bien ton goupillage à l'intérieur et le tour est joué, hein, de toute façon.
Comment fait-on pour copier une clé ? Est-ce que l'un de vous deux a déjà tenté la méthode, comme dans les films, avec une empreinte dans un savon un petit peu mou ?
Alors, l'empreinte dans le savon, c'est pas top, quoi.
Ouais, j'ai essayé avec du savon liquide, j'y suis pas arrivé.
Ouais.
La cire.
De la cire plutôt, ouais, parce que c'est un petit peu plus dur en solide, enfin quand c'est solide, je veux dire, c'est un peu ça marche un petit peu mieux, je pense, quoi. Bah, après t'as également juste le truc de fumée que tu peux aussi faire pour copier une clé, quoi, en douce, quoi, c'est-à-dire tu coupes la tôle d'une boîte de conserve ou d'une boîte du canette, quoi, et puis tu poses ta clé dessus, quoi, tu crames le truc pour faire une empreinte.
D'accord.
Et après,
donc
tu découpes simplement au ciseau ton truc.
Donc tu crames pour faire une empreinte de carbone parce que c'est combustion
imbrûlée. Tu fais la découpe et puis clac, généralement ça marche bien. Ou alors un petit coup de lime, quoi, et puis hop.
Et un pro ?
Bon, le pro, il va pas s'emmerder à faire ça. Franchement.
Donc tu utilises en général, c'est quoi?
C'est des procédés qui des fois peuvent bien dépanner, je trouve. Quoi. Tu vois, c'est pas moi je pense pas dans le truc d'illégalité à mal, un truc comme ça. Des fois ça peut dépanner. Mmh. T'es emmerdé, pourquoi pas quoi. Allez quoi. Parce que des fois tu te retrouves, t'as même pas d'outils. Si t'es dehors de chez toi, ouais. T'as pas d'outils. Tes outils sont à l'intérieur. t'as la caisse à outils, t'as tout quoi. Et t'es dehors. Donc,
il y a prescription, t'es à la retraite. Ça t'est déjà arrivé.
De quoi?
De te retrouver enfermé dehors avec tes outils dedans.
Ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais le coup de la porte claquée, en fait. Hein.
D'accord.
Non, mais le coup de la porte claquée, ça, c'est un truc, c'est bon.
Bonjour,
qui ne l'a pas vécu, enfin, dans mon métier, hein, ouais. Je veux dire, qui ne l'a pas vécu? Je pense que, il n'a pas fait grand-chose, de toute façon, quoi. Mais après, bon, t'as toujours quelqu'un à l'intérieur où tu te démerdes, quoi. Mm. Disons que ça t'apprend à toujours avoir tes clés de bagnole sur toi pour pouvoir récupérer un truc dans la voiture. C'est genre, ah tiens, mais j'ai la radio dans la voiture. Tiens, je vais m'en servir pour ouvrir la porte.
Oui, enfin, j'ai jamais essayé d'ouvrir une porte avec un autoradio. Non, elle était nulle.
Fallait tenter.
Est-il vrai que s'il faut un serrurier, un huissier et un commissaire de police pour une perquisition au petit matin, c'est qu'il faut 3 personnes, pas plus, pour enfoncer une porte certifiée NF, c'est écrit dans le standard.
Alors non, c'est plus vrai maintenant, parce qu'en fait, il fallait au départ, donc en ce qui concerne l'officier de police, il fallait donc que ce soit un officier de police, donc minimum un inspecteur ou un commissaire. Mais comme, ça remonte à pas mal d'années, comme pas mal de flics, faisait ce truc-là en se disant « Putain, je suis tranquille, je me balade toute la matinée dans une bagnole, de temps en temps je regarde comment le serrurier ouvre une porte et comment le l'huissier règle ses problèmes avec eux. Voilà. Et en plus, ils touchaient
ils étaient défrayés
pour ça. Donc, il y avait une espèce de course à l'échalote à un moment donné au commissariat de Toulouse qui a fait que on a dit non.
T'as précisé le nom de la ville, c'est que c'était spécifique.
Non, mais bon, je parle de ce que je connais, hein, de ce que j'ai vécu. Et donc, après, le fait est qu'ils envoyaient deux flics en uniforme. C'est-à-dire qu'après, c'était deux gardiens de la paix normaux qui faisaient également office de témoin pour la partie légale et tout, sachant que l'huissier est également fait partie du ministère de la justice.
Enfin, il est assermenté, lui.
Est également assermenté, quoi. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Mais c'était juste pour ces histoires-là, quoi. Après, les flics, ils ont rien à foutre, hein, de toute façon, quoi. Ils sont là pour garantir le truc parce que c'est sur les papiers. Et à chaque opération, à chaque acte, toutes les personnes présentes, y compris la personne qui est dans l'appart ou dans la maison, signe un papier.
Oui, il y a un procès verbal.
Il y a un procès verbal avec le nom de toutes les personnes qui sont présentes et tout, serrurier, machin, tout ça, quoi. Disons pour que ce soit super légal, qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Après, des fois, c'est là qu'on en revient un petit peu au problème du lockpicking qui est très intéressant, parce que selon l'acte chez les huissiers, soit tu ouvres ta porte, t'en as rien à foutre, tu peux péter la serrure, t'en as rien à foutre, tu vas changer après, c'est pas grave. Mais dans un certain cas, qui s'appelle dans le cas de ce qu'on appelle l'acte de saisie, c'est-à-dire que c'est quand l'huissier il vient chez toi, que la décision de justice contre toi a été prononcée, tu dois tant, donc tu dois rembourser tant, point. La décision de justice, donc l'huissier va venir chez toi. Alors si tu peux pas t'arranger avec lui pour payer, quoi, comme ça tout de suite, tiens, je te fais un chèque, ou tiens, vas-y, c'est bon, tu fais un échéancier, et lui va venir chez toi, et il va répertorier tous les trucs qui pourraient être vendables dans la maison, c'est-à-dire ta télé, ton frigo, machin, où il estime à peu près la valeur, et là il va noter les références, et il va coller un truc sur le truc. Et ça veut dire que toi, tu ne peux plus toucher à ces trucs-là. Tu peux t'en servir, tu peux pas les revendre si tu veux toi-même pour rembourser. Pour l'instant, ils ne t'appartiennent plus, quoi. Et là, quand tu fais une saisie, mais qu'il n'y a personne, tu ne peux pas péter la serrure. Tu es obligé de crocheter la serrure, l'ouvrir, après la refermer. En laissant, bien sûr, le papier sur la table, il laisse le papier, le constat, le procès verbal sur la table pour que le type rentre. et constate qu'on est bien passé, voilà, on a ouvert, on a refermé. Et c'est comme ça que ça se passe.
Et t'as intérêt à avoir, avant qu'il passe pour saisie, d'avoir mis un autocollant sur ta chaîne IFI, propriété de Radio Éphémère, contactez Philippe Fraisière au 06...
Oui, oui, peut-être pas, quoi. Non. Peut-être pas, quoi.
Bah voilà, si, ça, si, c'est elle est vieille,
peu,
la chaîne.
Ça, c'est le truc légal et tout, quoi. Donc là, ça rigole pas.
Oui, j'imagine que ça, non, mais j'imagine ça doit pas être une ambiance franchement marrante.
Ben, disons que bon, c'est ça, c'est là où le bas blesse, si tu veux, quoi. C'est que tu vas chez des gens qui, bon, ben, ont des problèmes de pognon, comme c'est pas permis. Des fois, tu tombes dans des situations qui sont franchement dramatiques, quoi. Où tu dis, bon, bah, ok, quoi, tu as, t'es partagé entre le fait, bon, est-ce que je leur file un coup de main, ces enfoirés qui vont foutre ces gens dehors, hein, ou alors, bon, ben, je fais mon boulot, quoi, tu vois, genre, voilà, c'est. Alors, c'est un des trucs d'éthique et tout, tu fais pas ce boulot, quoi. Tu vois, tu dis, bon, ben, pff, tant pis, quoi. Mais après, tu passes par là et puis il n'y a pas de problème. De toute façon, ça arrive très rarement, hein, je veux dire, généralement, quoi, c'est toujours assez cool et tout. Quand tu fais une quinzaine de sorties pour en une demi-journée pour des saisies, je veux dire, si tu ouvres une porte, tu es content. Tu vois, le reste du temps, les personnes sont là, donc. Toi, tu discutes avec les flics dehors sur le pas de porte et tout. Alors, comment ça se passe et tout. Et puis ça, et puis ceci. Et puis l'autre, il se démerde à l'intérieur avec, avec la personne concernée. C'est tout. Hein. Donc, si tu veux, d'un côté, c'est pas mal. Disons, à un moment donné, ça peut être une manne financière très intéressante pour un serrurier qui fait pratiquement que ça. Je veux dire, s'il peut travailler avec plusieurs huissiers à faire des demi-journées, voire des journées, je veux dire, le type, il peut gagner assez bien sa vie. Sans problème, quoi.
C'est toujours mieux que peut-être que distribuer des flyers urgence, ouais, serrurier, oui, officiel.
Non, mais
ouvrage de porte.
L'avantage aussi, c'est que tu as toujours une garantie légale derrière toi, parce que tu travailles avec des gens qui font partie de la loi, enfin qui représentent la loi. Donc, je veux dire, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc, si tu fais bien ton boulot, il n'y a pas de problème, tu n'es pas emmerdé, ça marche bien, quoi. C'est ça. Quoi. Et de toute façon, quand tu travailles avec des huissiers, généralement, faut quand même être assez bon. Disons que ça se voit assez vite si t'es un clampin. Non, au revoir.
Donc en plus, c'est une garantie si le type fait appeler par les huissiers.
Ah oui, oui, oui. Oui,
ça,
oui,
je
oui. Ah si. Un huissier, de toute façon, il peut balancer un serrurier du jour au lendemain et tout, quoi. Si jamais il le merde et tout, ça dépend du caractère du type, quoi.
Après, donc la prochaine fois que j'appelle un serrurier, il vaut mieux que j'appelle un huissier d'abord pour savoir quel est votre serrurier.
Non, parce que t'en as, c'est des gros cons, quoi. Donc je peux le dire franchement, hein, de toute façon, quoi. T'as des huissiers, c'est des chiens galeux. Ils traitent les gens comme. C'est pas. Et d'autres qui sont très humains.
Je te rassure, en informatique, on a la même chose avec les chefs de projet.
Oui, non, mais c'est. Là, bon, ok, quoi. C'est quand même. Il y a du contact avec du public, j'allais dire. Enfin, il y a un contact physique, si tu veux, quoi. Donc, c'est pas pareil que bon, quand tu as un écran ou que tu as des fils qui créent le gap, quoi, tu vois. Là, non, t'es devant, quoi. T'es en face. Donc.
C'est pas des tickets.
Non.
Une question, alors, je sais. Elle est sur ta vie professionnelle, c'est peut-être l'heure d'un bilan pour savoir quelle a été du sport la porte qui t'a été la plus compliquée pour toi à ouvrir professionnellement.
Alors celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie, parce qu'en plus c'est assez récent, hein. C'était l'année dernière je crois, ouais l'année dernière, et en fait c'était une porte blindée fichée. Déjà du pas mal. Et bon.
Une porte d'appartement, une porte de coffre.
Ouais. Non, mais une porte blindée avec la 5 points fichés, enfin bon, les trucs bien, quoi. Et j'ai mis 3 jours à l'ouvrir.
Yeah. Ah ouais.
C'est-à-dire que j'essaye une première fois, 3 heures. Je me dis putain non ça va pas, c'est pas bon et tout. Heureusement c'était un couple jeune, ils avaient un point de chute, c'est-à-dire ils étaient pas dehors, donc et puis je les connaissais, quoi, hein, c'est-à-dire que bon, on avait déjà fait des trucs ensemble.
Ah oui, donc tu les entends louper pas du tout.
Bon, ça allait, quoi. Mais par contre bon bah il fallait vachement plus de matos, et puis bon j'ai carrément terminé à la grosse meule, quoi.
Ah ouais.
Pour dire, quoi. avec en plus
désolé pour ta porte.
Oui non avec non mais je savais que je pouvais la retaper après, reboucher les trous et tout ça, je veux dire bon voilà, mais bon. Et avec en plus le deuxième jour, parce que je suis allé 3 jours de suite, et le deuxième jour j'ai appelé un pote que je connais qui travaille chez Fichet, dans une boîte Fichet à Toulouse. Donc, et que je, bon, voilà, entre serrurier et différentes boîtes, bon, on se rencontre, on discute des fois, il y a des cons, mais il y a des mecs bien aussi dedans, dans cette catégorie. Et là, lui, je le connaissais, je l'appelle et tout, et puis il me dit, ok, bon, je viens et tout. Quoi. Puis le mec, il a essayé de son côté, pareil, lui, il a l'habitude, il fait que des fichets pratiquement. Et pourtant, il a ramé, il a dit, ah non, Philippe, tu vois, là, il y a une espèce de système de blocage et tout. Alors, putain, c'est des systèmes sophistiqués que tu le crois pas. C'est une bille, c'est un petit peu comme une bille, quoi. La bille qui fait tilt dans le flipper. Tu vois, tu la bouges, tu claques, ça bloque le truc. Après, t'es niqué. Même si t'as la clé, tu peux pas ouvrir, hein, tu vois.
C'est genre... Ah oui, c'est vraiment le tilt.
Non, mais voilà. C'est un para-attaque. Et donc, le troisième jour, j'ai dit, bon, on prend la meule, on y va, on découpe tout. On fait un truc comme ça, on vide tout. Puis comme ça, t'as plus que le mécanisme, c'est cool. Il n'y a pas de problème. J'ai mis 3 jours, voilà. Ça, c'est. Là, je m'en souviendrai toujours. Quoi.
Alors, une question pour vous deux du Sport Everax. Êtes-vous prêt à échanger la serrure de votre appartement par une serrure à carte NFC ou biométrique ?
Non, pas du tout.
Du tout. Jamais.
Non.
Grand Dieu, jamais.
Non.
Finalement, on reste sur la bonne vieille mécanique.
Cette technologie nouvelle quoi, est très intéressante, mais dans le cadre de contrôle d'accès. C'est-à-dire, travailler en.
Là où il y a plusieurs personnes qui sont
en entreprise, ça vaut le coup, parce qu'effectivement, tu peux faire du super contrôle d'accès avec ces trucs-là. En gardant une partie serrure mécanique et entraînée par un système électrique, hein, ça maintenant ça marche, c'est au point, il n'y a pas de problème. Par contre, ça coûte bonbon, quoi. Mais par contre, je veux dire, quand tu as une entreprise de 200-300 personnes que tu as envie, qu'il y ait seulement 30 personnes qui aillent dans cet endroit, pas dans l'autre et tout ça, et ainsi de suite, et faire un organigramme très complexe, tu peux le faire avec ce truc-là, sans problème. Alors que si tu dois faire la même chose en mécanique avec des clés, c'est possible techniquement aussi, mais par contre, tu vas un petit peu payer plus cher tes cylindres par rapport au prix normal d'un cylindre. Parce que ça va être des cylindres sur organigramme avec des fois double, triple goupillage. Donc, c'est là que ça coûte cher.
Et tu peux pas révoquer une clé.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ah non, et non. Oui, justement, quoi. Ça, c'est le problème. Tu peux toujours ouvrir une nouvelle ligne. C'est ça aussi, hein, quand tu as des organigrammes, tu peux ouvrir une nouvelle ligne, c'est-à-dire en supprimer une et puis en la remplacer par une autre. Ça aussi, c'est possible, quoi. Mais c'est pareil, hein, disons. C'est un peu complexe, quoi. Je veux dire, il faut vraiment être dans le monde, chez les pros pour savoir comment faire, à qui commander, tout ça, le délai, combien ça va coûter, tout ça. Enfin bon, mais effectivement, le truc des électroniques, là, moi je trouve ça très pratique, hein, pas de problème, quoi. Je sais que Bricard nous avait fait, on avait une journée de présentation des nouveaux produits, dont la serrure magnétique avec carte, avec. Et bon, c'était vraiment très intéressant, il n'y a pas de problème. Quoi.
Mais pas chez soi.
Hein ?
Mais pas chez soi.
Mais non, c'est ridicule. Quoi. Ouais, ouais. Ça reste une serrure lambda. Je veux dire, ouais. Ça équipe quand même une serrure lambda, ce truc-là. C'est-à-dire que toi, tu as une serrure 3 points encastrée. Là, tu peux le mettre sur une serrure 1 point encastrée. Je veux dire, t'as beau avoir un truc biométrique et tout, 3 coups de latte dans la porte, c'est bon, la porte, la serrure, elle a pété. La gâche, elle est ouverte. Hein. Il n'y a plus de gâche, hein. Il n'y a plus de montant, il n'y a plus rien. Quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça. Quoi. Dans un truc privé, moi, je dis, bon, c'est un peu ridicule. Ou alors, bon, si t'es pété de thunes et puis t'as envie de faire n'importe quoi, et puis ça marche. Quoi.
Mais bon, t'as le problème aussi, quand les gens ils achètent des serrures électriques vraiment pas chères, mais en fait, t'as la partie, entre guillemets, commande, où tu places ton badge, enfin, réception qui est là devant toi, mais t'as aussi le moteur, en fait, qui est juste à côté. Qui n'est pas normalement éloigné en fait. Donc en fait, tu as juste à enlever le boîtier, tu prends 2 fils et tu peux commander directement le moteur, alors que le moteur devrait être de l'autre côté de la porte ou pas devant en fait.
Ou la communication avec un système chiffré,
voilà.
Ce genre de choses.
Donc ouais. ça sert
ça, c'est les cylindres vachettes, ils avaient sorti des trucs comme ça justement.
Ah
ouais quoi. Les cylindres profil européen donc, mais avec justement quoi, alors à place d'avoir des clés. C'était un truc avec un sensor, tu passais ta carte et puis ça ouvrait électriquement.
Ah, trop génial, oui. Il faut l'alimentation électrique dans la porte.
Ah, mais mince, et comment on fait quand les piles ne marchent plus ? On ne sait pas. Bon, au revoir.
Et moi, j'avais déjà fait le test sur des trucs pareils électriques, comme ça, où en fait, avec un gros aimant, bah, tu passais l'aimant devant,
ouais, aussi, ouais.
Et tu le tirais sur le côté, et cet enlevé le loquet, il passait, quoi. En
fait, oui, oui, oui. Ou alors tu lis 3 piles de 4-5, quoi, pour faire du 12, puisque généralement, c'est alimenté en 12, ces trucs-là, quoi, 12 volts. Et ok, quoi, avec deux fils, pouf, puis ça s'ouvre, hein, y a pas de secret, hein, de toute façon, quoi.
Du sport Verax, merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi pour l'invitation.
Ah bah on va passer au côté pratique maintenant. Voilà.